Est-ce que on arrive justement à mettre en musique ces deux luttes conjointes, la lutte contre le capitalisme et la lutte contre le patriarcat? Et il n'était pas anodin qu'on ait voulu faire cet atelier à deux voix avec Frédéric Roche en tant qu'économiste communiste. Alors ça n'est que partie remise parce que il nous semblait important au niveau de la commission d'entrevoir comment, à chaque fois qu'il y a finalement une analyse qui est faite par nos économistes, eh bien c'est assez, au niveau des genres, une analyse neutre. Ou en tout cas, si elle n'est pas neutre, on n'en tire pas les conséquences concrètes par rapport à l'exploitation des femmes. Et il nous semble que dans la période que nous sommes en train de vivre, où justement nous cherchons en France, en Europe et dans le monde, il y a beaucoup de progressistes qui cherchent une alternative au capitalisme. Nous, en France, on a le besoin, pour transformer la société, comme partout d'ailleurs, d'élargir un rassemblement populaire pour qu'il devienne majoritaire. Il nous semble important d'avoir cette dimension-là sexuée. Et nous pensons qu'il est important de partager le fait que la lutte de classe est sexuée. D'où le titre un petit peu provocateur, qui ne vous a pas échappé, « Les damnés de la terre, il est au féminin », et donc le sexisme ordinaire. Donc c'est ça le but de l'atelier, donc un peu plus réfléchir, travailler sur notre propre orientation politique et qu'est-ce que ça implique donc pour chacun et chacune en tant que militante et militant. Parce que si on va voir un peu dans les textes, on va dire, qui nous inspirent, malgré l'analyse de Engels de la double exploitation des femmes, où je cite « dans la famille, l'homme est le bourgeois et la femme joue le rôle du prolétariat », eh bien, il me semble que nous restons dans une attitude figée qui, consciemment ou pas, subordonne le combat contre le patriarcat au combat contre le capitalisme. C'est-à-dire, on va continuer, alors que dans nos congrès, on a dépassé ce stade-là, hein, on va continuer à se dire, inconsciemment ou pas, que d'abord on va lutter contre le capitalisme, et puis ensuite on verra, et on va débarrasser la société du patriarcat. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, je dirais, dans une situation de crise qui broie aussi bien les femmes que les hommes. Alors, je crois qu'il faut nous poser la question, finalement, ce qu'a d'ailleurs dit Antoine dans son propos liminaire, c'est comment se fait-il qu'on n'arrive pas à voir, d'une manière collective, et qu'on n'arrive pas à porter donc le fait que cette oppression de classe soit sexuée, et que les plus exploités, ce sont des femmes, que ce soit dans le monde salarié, que ce soit dans le monde étudiant, que ce soit dans le monde agricole, etc., etc. Et d'ailleurs, pour certaines d'entre vous, nous l'avons vu hier avec Marie-Vonne Poulain à propos de la lutte du 57 boulevard de Strasbourg, dans la lutte qu'elle nous a fait vivre avec elle, eh bien, non seulement c'est des femmes qui étaient terriblement exploitées, mais en plus des femmes immigrées qui, elles, alors là, j'allais dire, paient le prix fort, mais j'y reviendrai. Donc, je crois qu'il faut nous interroger sur le fait qu'à partir du moment où les femmes subissent de plein fouet donc, la crise, les méfaits du système capitalisme, il faut aussi comprendre et décortiquer les mécanismes qui font que, y compris les femmes et les hommes, vivent l'exploitation différemment. Et je pense que c'est aussi important, à la lumière des réformes qui sont portées aujourd'hui par un gouvernement dit de gauche, depuis son arrivée au pouvoir, toutes les réformes qui ont été mises en place sont néfastes pour l'ensemble du monde du travail, je dirais, mais particulièrement avec des conséquences très graves au niveau des femmes, que ce soit, et on pourra en débattre, l'accord national interprofessionnel, hein, sur la soi-disant la sécurisation des parcours professionnels, la loi Macron, toutes ces réformes-là, toutes ces lois-là vont creuser encore les inégalités entre les femmes et les hommes, et donc permettre de nouvelles formes d'exploitation et institutionnaliser réellement le temps partiel Et puis, vous l'avez vu, avec y compris l'ouverture sur le travail du dimanche. Et comment, en même temps, alors qu'il y a eu des avancées, parce que les choses ne sont pas linéaires dans les combats que nous pouvons mener, il ne faut pas, parce que je vais mettre ça en avant, penser et ne voir les femmes qu'en tant que victimes. Il y a des avancées, il y a des combats, il y a des luttes, mais comment interpréter le fait que dans la loi sur le dialogue social de Rebsaben, eh bien, y compris les outils pour mesurer la situation des femmes au niveau de l'égalité professionnelle, eh bien, soit purement et simplement abandonnée, c'est la situation comparée. Donc, sous quel prétexte ? Donc, je crois que c'est très important pour nous parce que on ne peut pas élargir un rassemblement et le rendre majoritaire si on ne prend pas en compte les stratégies individuelles ou collectives pour résister à l'aliénation de classe, voire y échapper, et donc bien comprendre qu'elles ne sont pas forcément les mêmes. Et je dois dire, et je ne m'en réjouis pas, qu'aujourd'hui, l'ensemble des partis et des syndicats progressistes considère, il n'y a pas que le Parti communiste, hein, considère la lutte contre le patriarcat comme plutôt marginale et ignore la dimension sexuée de l'exploitation. Alors que on peut dire que les tenants du capitalisme, eux, ne l'ignorent pas. La question, me semble-t-il, donc, que nous devons avoir en tête, c'est que si les contours de la classe ouvrière ont beaucoup changé, on est toujours dans un combat de classe. Et la question que nous devons résoudre, celle qui conditionne toute possibilité de changement, c'est la conscientisation d'appartenance à la classe des dominés. Or, vous le savez, les possédants ont bien la conscience d'appartenir à une classe, alors qu'on peut nommer possédant, privilégié, nanti, tout ce qu'on veut. Mais là, je vous renvoie, ce n'est pas l'objet de notre atelier, je vous renvoie aux travaux des Pinsons Charlot qui ont vraiment très bien mis ça en évidence. Et du coup, eux, ils font bloc pour défendre leurs privilèges, et alors que ceux et celles qui vivent l'exploitation sont dans la recherche de s'en sortir, souvent individuellement, et d'autant que la bataille idéologique fait rage, et qu'on est dans un siècle où c'est le siècle des gagneurs, de ceux qui résistent, et le degré de réussite qui se mesure à l'ampleur, finalement, des richesses qui sont accumulées. Donc, dans ce contexte-là, la course est ouverte pour concourir face à celui qui a un peu plus, c'est la mise en concurrence, le chômeur face au salarié, celui qui a un logement, par rapport à celui qui en a pas, et je pourrais multiplier les exemples. Et vous voyez, là encore, j'ai fait exprès, mais pourquoi employer le féminin ? Parce que le langage n'est pas anodin. Et je suis par ailleurs orthophoniste, donc c'est pour ça que je suis particulièrement sensible au langage, mais c'est vrai que quand on regarde le matériel que nous pouvons faire, les tracts que nous pouvons faire, c'est masculin. Les salariés, le salarié, le chômeur, etc. Hein, voilà. Et alors on va nous dire, mais c'est un détail parce que on est plusieurs à se bagarrer sur justement féminiser le langage et que parfois c'est un peu difficile au niveau de la lecture parce que tiret, machin. Oui, bah, c'est peut-être un peu difficile, mais c'est la vie, quoi. Nous, ça fait des... Enfin, pas des millénaires personnellement, mais je veux dire que... Parce que sinon, ben, on serait bien conservés. Mais je veux dire que, bon, voilà, ça fait un moment qu'on subit des tracts qui, en fait, ne s'adressent pas à nous, si on poussait les choses jusqu'au bout. Alors, si on va... Je vais prendre un certain nombre de questions assez rapidement, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà dit, mais si l'on prend la seule question de l'emploi, les femmes ne sont pas une catégorie parmi d'autres. Les injustices, les discriminations qu'elles subissent, en fait, ne sont dues qu'à leur appartenance au sexe féminin. Flexibilité, précarité, bas salaire se conjuguent donc au féminin, et quel que soit le gouvernement en place, les politiques menées ne modifient pas cette donne, le plus souvent elles l'aggravent. J'y ai fait référence avec la loi Macron, etc., etc. Aussi, je pense que la tendance qui consiste à diluer les luttes spécifiques des femmes dans des exigences globales du mouvement social, d'autant plus en période de crise, est une erreur. Le patronat, d'ailleurs, lui, a bien intégré la notion de genre, et il utilise le travail féminin comme une sorte de laboratoire d'expérimentation lui permettant de généraliser précarité et flexibilité à l'ensemble du monde du travail. La main-d'œuvre féminine est une des catégories de main-d'œuvre qui modèle depuis 20 ans l'évolution du marché du travail et son aliénation est au cœur du rapport salarial d'exploitation. Prenons l'exemple des femmes immigrées, très représentées dans les entreprises de nettoyage, mais aussi de services à la personne. Elles ont en quelque sorte été les expérimentatrices involontaires de normes d'insertion voulues par les patrons. Il s'agit d'une insertion individuelle, avec mise en concurrence féroce des individus sur des critères de plus en plus subjectifs, entraînant une fragilisation sociale et psychique accrue. Mais ne perdons pas de vue ce paradoxe. Le travail, même difficile et dévalorisé, constitue une émancipation pour les femmes. Le rejet d'un ordre social qui réduit l'activité féminine à l'espace domestique. C'est ce que d'ailleurs Maryse Dumas a mis en exergue lors de son audition dans le cadre de la brochure « Et si les femmes révolutionnaient le travail ?» Et on en a un certain nombre à votre disposition puisque c'est un travail de la commission et qui montre donc des pistes pour transformer la société à partir du travail imposé aux femmes. Donc si les femmes sont en première ligne de ces attaques, évidemment, il ne s'agit pas pour moi de les cantonner à un rôle de victime. Ce sont des résistantes, des combattantes. Nous sommes des résistantes, des combattantes, des guerrières. Il y a plein d'exemples. Les caissières, des grandes surfaces, les salariés du salon de coiffure du 57 boulevard de Strasbourg à Paris. Et puis, vous en avez toutes et tous des modèles de ce genre-là. C'est vrai en France, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde. Et on a vu que toutes les révolutions, printemps dits arabes, etc., ont vu les femmes en première ligne dans la bataille. On le voit aussi au niveau de la résistance des Kurdes. Voilà, donc quand je dis ce sont des guerrières, nous sommes des guerrières. C'est vrai que ça fait du bien un petit peu de se le dire parce qu'on ne le voit pas souvent. Et à ce propos, je fais une incise, voilà, c'est que je rends un grand hommage à l'UMA qui, cet été, a donné la dernière page de l'UMA à des femmes vraiment combattantes dans différentes parties du monde et à montrer le rôle des femmes dans la société. Alors donc, je pense qu'il nous faut appréhender les mécanismes qui sont à l'œuvre à l'égard des femmes et qui émanent de l'ensemble de la société. Aux pratiques patronales discriminatoires s'ajoutent des politiques publiques longtemps pro-familiales et pro-natalistes qui ont renforcé les inégalités de sexe et conforté les mentalités en confinant les femmes dans un rôle exclusif de procréation. On vient d'avoir un atelier là sur la famille, modèle éternel, etc., qui était absolument passionnant. Donc, je ne peux pas développer. Mais ça, pourquoi je parle de ces politiques-là ? Pour que dans la discussion, on ait ça en tête, parce que du coup, eh bien, ça met en avant la politique que nous voulons opposer à celle qui est menée actuellement, c'est-à-dire améliorer, développer les services publics, ce qui est une question majeure pour l'ensemble de la société, mais particulièrement aujourd'hui pour les femmes. Et c'est vrai que c'est en quelque sorte la colonne vertébrale de notre projet de société. Donc, l'égalité pleine et entière est une bataille qui est menée depuis des années avec des avancées importantes au niveau des droits des femmes, mais c'est vrai aussi qu'elle est loin d'être gagnée, et ce dans tous les domaines, l'emploi, l'éducation, hein, on a parlé de la fac tout à l'heure, etc., etc. Et puis qu'il y a des réactionnaires qui veillent, si je puis dire, au grain et qui sont quand même aidés par le pouvoir des religions. Et je dis bien des religions, et notamment des trois religions monothéistes. Parce que souvent, il y a une seule religion qui est mise en exergue. Alors, justement, dans les exemples que je vais choisir ce qui s'est passé en 2011, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire, c'est la montée en première ligne de Christine Boutin, qui, contre un nouveau programme dans les livres de première, en sciences de la vie et de la terre. Je vous rappelle que présidente du parti chrétien-démocrate, et en fait elle relayait la position du Vatican, et elle accusait donc ces nouveaux programmes d'influencer l'orientation sexuelle des élèves. Cette polémique se poursuit aujourd'hui, hein, là je vous parle de 2011, mais ça s'est poursuivi aujourd'hui par l'affrontement social et moral autour du mariage pour toutes et tous. Et ça s'est concentré notamment sur les études de genre en dénaturant totalement le contenu des modules d'apprentissage de l'égalité entre les filles et les garçons dès l'école maternelle, avec l'appel aux journées de retrait de l'école. Pour les réactionnaires familialistes, partisans du maintien des femmes sous domination masculine et à l'origine des commandos anti-IVG, ça a été l'occasion, et c'est d'ailleurs l'occasion, de retrouver une place prépondérante en menant une véritable croisade contre l'égalité. Ils n'hésitent pas à employer des arguments plutôt caricaturaux et à instrumentaliser les religions, mais je pense qu'on ne peut pas seulement dire ça et dénoncer, il faut voir qu'ils marquent des points dans les quartiers populaires, comme d'ailleurs dans les quartiers plus favorisés, dans les zones rurales, comme dans les zones urbanisées, et c'est une porte insidieuse et très dangereuse pour consolider la hiérarchie des rôles assignés dans nos sociétés, aux filles comme aux garçons. C'est le terreau qui permet de maintenir les dominés sous le joug du capitalisme et du patriarcat. De manif pour toutes et tous, à jour... Non, c'est le mariage pour toutes et tous, et c'est la manif pour tous. Oh, pas que je m'embrouille les crayons, là, mais c'est dimanche. Hein. De manif pour tous, à jour de colère, en passant par jour de retrait de l'école, ce sont les droits des femmes, des lesbiennes et des gays qui sont visés au nom de la préservation de l'ordre moral, de la sauvegarde de l'humanité. Et c'est pourquoi la droite et son extrême se joignent à cette contestation afin de capter les suffrages contre tout projet de changement. Et on voit dans les quartiers la montée des intégrismes. Hein. J'ai parlé de l'intégrisme catholique, mais il y a aussi l'intégrisme islamiste, on va dire, et qui fait des ravages. Et on a besoin d'échanger sur ces questions-là pour justement opposer un combat qui est celui de l'égalité, du respect, celui de la laïcité. Et je veux rappeler que la laïcité pour nous, c'est d'abord le pouvoir au peuple, à l'ensemble du peuple, avec trois piliers, la liberté de conscience, l'égalité des droits et le vivre ensemble. Et c'est cette laïcité-là qu'on veut faire vivre. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'y adjoindre des adjectifs, elle n'est pas plus positive aujourd'hui qu'elle était hier. C'est ça, enfin pour moi, c'est la laïcité, mais bon, ça peut faire l'objet d'un débat. Donc, on a besoin de développer des arguments. C'est d'ailleurs l'objet, mais je ne l'ai pas là aussi, sur toutes ces questions qui ont trait à la famille. On a fait un colloque avec la Fondation Gabriel Péri et on a sorti une petite brochure de contre-arguments sur la famille. Je n'ai plus d'éléments papier, mais vous pourrez donc la télécharger sur le site. Alors j'ai parlé du travail, très brièvement de l'éducation. Antoine a parlé de la fac et des étudiantes, mais évidemment on ne peut pas se cantonner seulement quand on parle de l'imbrication entre lutte de classe et lutte contre le patriarcat. Les femmes, elles occupent l'ensemble de la société et elles vivent dans l'ensemble de la société et elles subissent des pressions dans tout domaine qui va permettre leur émancipation. Émancipation économique au travers du travail, émancipation ou liberté sexuelle au travers des droits qui ont été chèrement conquis, contraception, interruption volontaire de grossesse. Alors aujourd'hui, ces droits-là sont remis en cause dans des pays voisins en Europe, on s'est battu avec les femmes espagnoles, sont remis en cause ou ne sont pas conquis dans certaines parties du monde, mais il faut savoir qu'ils sont remis en cause aussi en France d'une manière différente. C'est par les politiques qui sont menées, des politiques de restriction budgétaire, des politiques qui s'appuient sur l'austérité, que finalement l'interruption volontaire de grossesse est remise en cause, puisque aujourd'hui, avec les fermetures de beaucoup de centres hospitaliers, notamment de maternité de proximité, comme les centres d'interruption volontaire de grossesse sont adossés aux maternités, eh bien aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire durant ce week-end, des femmes en France sont obligées d'aller à l'étranger pour pouvoir avorter. Donc on revient à ce qu'on avait conquis dans les années 70. Donc à chaque fois, il faut non seulement résister pour préserver et pour améliorer les droits qui sont conquis. Donc atteinte de l'autonomie des femmes, atteint de la liberté sexuelle, et on pourrait, c'est vrai, dans toutes les dimensions, il y a évidemment à parler d'un fléau qui est terrible, qui est le fléau des violences faites aux femmes, qui tue, et qui fait que c'est aussi une façon de cantonner la femme à la sphère domestique et de la cantonner de la plus dure des façons, puisque c'est sous pression, sous violence, etc. Avec une violence qui est poussée au paroxysme, pour nous, c'est tout ce qui est autour de la prostitution. Et là, on a affaire à des réactions qui se font dans la rue, j'ai donné quelques exemples rapides, mais qui se font aussi dans les institutions et dans l'hémicycle. Je vais parler de l'expérience que j'ai en tant que sénatrice. Deux éléments. Sur la lutte et la loi contre le système prostitutionnel, le Sénat, particulièrement réac et vieillissant, a remis en cause ce que l'Assemblée avait voté, à savoir... a remis donc dans la loi le délit de racolage, donc victimisation criminalisation des prostitutions, et a retiré la pénalisation de l'acte tarifé ou du client. Alors aujourd'hui, on est dans un espèce de, entre deux, puisqu'il y a eu les deux lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et la loi, elle devrait retourner à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ou bien faire ce qu'on appelle une CMP, c'est une commission qui permet de trancher. Pour l'instant, c'est nulle part, ça. Alors, vous me direz, c'était au moment de juillet, ça va peut-être venir. Mais je pense qu'il y a besoin qu'il y ait une mobilisation, parce que pour obtenir des droits pour les femmes, notamment, mais c'est vrai pour l'ensemble des salariés, pour les chômeurs, etc. À chaque fois qu'on veut conquérir des droits, dans quelque domaine que ce soit, il faut la conjonction des rapports de force dans la rue et après avec le vote des lois. C'est pas d'abord les lois, c'est un rapport de force qui va permettre d'avoir des lois positives qui vont soutenir donc celles et ceux qui luttent. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et puis, deuxième exemple, on va voir la loi sur la santé au Sénat encore, puisque ça a déjà été vu à l'Assemblée nationale le 14 septembre. Et ça a été donc, nous avons examiné ça en commission en juillet. Donc les rapporteurs sont tous de droite. Et ils ont tout ce qui était contenu dans la loi et qui avait trait à l'interruption volontaire de grossesse a été retiré du texte par le Sénat sous prétexte que ça relevait des lois de bioéthique. Or, l'interruption volontaire de grossesse est un droit que nous avons acquis. On n'est pas dans la bioéthique là, Voilà. Mais je vous le dis parce que la bagarre, elle va être rude. Et donc cette façon de structurer la société, ça permet de nourrir le capitalisme, d'opposer donc les femmes éventuellement aux hommes dans le monde du travail ou partout ailleurs. Et on le voit, il y a évidemment ce que je dis au niveau de la sphère publique, mais il y a aussi la sphère privée. J'ai parlé de violence, mais on pourrait, sans parler de violence, réfléchir au temps. Et quand on voit, là, je reprenais une étude de l'INSEE, eh bien, en moyenne, les femmes consacrent 4 heures par jour aux tâches domestiques et ménagères, contre 2h30 pour les hommes. Donc on voit qu'on est encore loin du compte. C'est une étude, il y a d'autres chiffres qui sont encore pires, mais bon, voilà. Donc, et pourquoi c'est important qu'on ait cet échange et qu'on perçoive bien les choses ? C'est pas seulement pour dénoncer, c'est pas seulement pour avoir des propositions alternatives, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est toutes et tous à se poser la question de comment on peut changer avec le poids des institutions européennes et comment on peut construire non seulement le rassemblement mais un projet émancipateur. Et pour construire un projet émancipateur, il faut bien analyser et faire le diagnostic. Et quand je dis que les femmes subissent de plein fouet la crise, que ce soit économique, politique, démocratique, etc., puisque les pouvoirs sont encore loin d'être paritaires, hein, malgré les lois. Je peux vous donner des chiffres à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais vous les connaissez. On est encore loin du compte. Ça n'empêche pas les sénateurs, quand on monte au créneau, le groupe communiste, de nous dire « mais il y a un peu de patience ». Voilà. Moi, je dis, ça fait des millénaires qu'on a la patience, donc ça suffit. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Mais cette structuration, sociale, elle est un poids, elle est un fardeau pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de dire, si vous voulez, que d'un coup, parce qu'on nous fait dire ça, les féministes, c'est soit des harpies, soit c'est désuet, c'est fini, le combat est fini. Soit, je ne dirais pas tous les mots qui tournent autour des féministes, mais vous les avez, surtout les copines qui se sont battues dans les années 70. Mais les féministes, c'est pas quelque chose de dépassé. Et c'est pas le combat des femmes contre les hommes. Il y a des femmes qui ne sont pas féministes. Et il y a des hommes qui sont féministes. Donc, le féminisme, c'est pas dédié aux femmes. Et le poids du patriarcat, il a des conséquences extrêmement négatives sur les hommes et sur les stéréotypes qui sont développés. Parce que si les femmes, elles sont soumises à des stéréotypes, les hommes aussi sont en souffrance. Donc il ne s'agit pas pour moi de stigmatiser les hommes, de les désigner comme les bourreaux, mais bien de faire prendre conscience, ça va, il y en a quelques-uns, là, vous vous sentez soulagés, mais c'est de bien faire prendre conscience que les stéréotypes s'inscrivent vraiment dans un système dont personne ne sort grandi. Les hommes sont eux aussi victimes, avec une assignation à des rôles, à une place dans la société, à une obligation donc de réussite sociale et familiale, et tout l'écart à cette norme est très mal perçu. Donc, je crois, et ce sera mon mot de conclusion, parce que je pense que c'est important qu'on ait au moins un peu de débat, donc ça va, là j'ai 25 minutes, c'est bon. Je pense que c'est pour ça qu'on doit mener ce combat, hommes et femmes, nous mobiliser ensemble pour changer ce regard, pour ne pas reproduire une socialisation différenciée qui cloisonne dès le plus jeune âge et qui enferme nos identités. Je crois que le communisme, nous devons bousculer ces schémas, conscients que cette organisation sociale est aujourd'hui à bout de souffle. Et l'émancipation des femmes est avant tout une émancipation humaine. Et je conclurai mon propos pour montrer que ce n'est pas quelques féministes qui portent ça. J'ai commencé par Engels, donc je vais finir par Marx. Le développement de chacun est la clé du développement de tous. Voilà, merci.